Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Guillaume Nodin.
Et Victor Ouvard à la réalisation, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. C'était, et c'est encore, le B des BRICS, ces pays émergents qui étaient considérés il y a 5 ans encore comme les locomotives et même l'avenir de l'économie mondiale. Mais ça, c'était avant le ralentissement chinois, avant la chute des prix des matières premières, avant le relèvement des taux de la réserve fédérale américaine également. Depuis, le Brésil, c'est de lui qu'il s'agit, est en crise, une crise économique d'une ampleur jamais vue depuis les années 30, doublée d'une crise politique qui a coûté sa place à la présidente Dilma Rousseff et par laquelle le parti du nouveau président Michel Temer est loin d'être épargné. Où est donc le bout du tunnel pour le Brésil? Quels sont ses atouts pour rebondir et peut-il le faire alors que tous les regards se tournent vers lui à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio au mois d'août? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités de la semaine. Bonjour Christina Terra.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'ESSEC, grande école de commerce de la région parisienne. Vous avez aussi enseigné aux États-Unis et au Brésil. Vous êtes brésilienne. Vous êtes également chercheur associé au CEPI. C'est un important centre français de recherche sur l'économie internationale. Vous êtes spécialisé dans l'économie internationale et l'économie du développement. Et vous avez publié dans plusieurs revues économiques sur tous ces sujets. Le Brésil est évidemment au centre de vos travaux sur les économies ouvertes. On va en reparler. Mais associer Brésil et économie ouverte, ce n'est pas finalement une telle évidence tant il y a une tradition de protection des marchés et des entreprises nationales au Brésil. C'est pas si évident que ça.
C'est vrai, le Brésil est plutôt une économie fermée et les politiques économiques mises en place les dernières années ont encore fermé davantage l'économie. Et vous avez mentionné quelques situations internationales qui n'ont pas aidé le Brésil récemment, comme la chute des prix des commodities et les ralentissements chinois. Mais je voudrais juste mettre l'accent que la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des politiques économiques mises en place par le gouvernement brésilien.
Alors justement, avec nous également Jean-Yves Carfentan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également professeur d'économie, mais également, vous m'avez dit, dans une autre vie de philosophie. Votre domaine de prédilection, c'est l'économie des émergents et les échanges agricoles mondiaux. C'est dans ce domaine que vous travaillez au Brésil, où vous résidez et où vous retournez d'ailleurs après cette émission. Merci d'avoir fait le détour. Pour vous, en dehors des facteurs conjoncturels que nous allons évoquer, la chute de l'économie brésilienne trouve largement ses racines dans la gouvernance du pays mise en place depuis plusieurs années.
Oui, je crois qu'au-delà des erreurs manifestes de politique économique qui ont été commises à partir de 2006-2007, il y a une longue tradition de mauvaise gestion des finances publiques, d'insuffisance de l'investissement public, qui sont des éléments très importants aujourd'hui.
Alors le Brésil, nous n'allons pas faire qu'en parler pendant cette émission. Nous allons y aller aussi avec notre correspondant Martin Bernard. Ce sera dans quelques instants. Alors pour bien savoir de quoi on parle, on va rappeler juste quelques chiffres pour le Brésil. Il y a dans le pays un peu plus de 200 millions d'habitants. Le PIB s'élève à un peu plus de 1700 milliards de dollars, du moins avant la forte récession enregistrée en 2015. 3,8%, récession qui devrait se poursuivre sur les mêmes bases cette année selon le FMI. Inflation environ 9%, le taux directeur de la Banque centrale est à 14,25% quand ils sont pratiquement à zéro en Europe et aux États-Unis. Pour le dire clairement, Christina Terra, ça va mal, ça va même très mal, l'économie est à l'arrêt.
Ça va très très mal. Et en fait, la récession, les chiffres de croissance de PIB a été révisé cette semaine. C'est pas 3,8% de décroissance, c'est 4,05% de décroissance. Ça va vraiment très mal. Les taux d'inflation très élevés. Et tout ça, comme je disais avant, c'était à cause des politiques économiques mal placées qui ont été mises en place depuis 2008-2009.
Alors, Jean-Yves Carfentan, oui, quelles sont les causes de ces difficultés? Il y a des erreurs manifestes qui ont été faites, selon vous, par les gouvernements des dernières années, du Parti des travailleurs, pour le dire clairement.
Vous avez en fait trois crises qui se juxtaposent, qui s'alimentent l'une l'autre et qui provoquent des rebondissements en permanence. Vous avez d'abord une crise économique, effectivement. Vous avez une crise politique majeure. C'est tout le système politique brésilien qui est aujourd'hui remis en cause. Et vous avez une longue procédure judiciaire qui a commencé au début de l'année 2014 à propos d'un scandale de détournement de fonds et d'alimentation des partis politiques autour de la compagnie Petrobras. Et ces trois crises, c'est un petit peu comme si on avait un feuilleton à rebondissement permanent avec trois scénaristes, chacun essayant d'imposer son propre scénario. Le scénario le plus important, c'est le scénario économique, mais il y a aussi les décisions de l'appareil judiciaire qui, tous les jours, remettent en cause, alimentent la crise politique.
Alors, on va parler d'abord des causes de la crise économique. De quoi est-ce qu'on peut parler ? Peut-être la crise des matières premières, en premier lieu. Le Brésil est un gros exportateur, gros producteur de matières premières, de minerais de fer notamment. Il y a plein de matières premières agricoles. Est-ce que ça fait vraiment très mal à l'économie brésilienne, Christina Terra ?
Ça fait mal, mais pas... C'est pas vraiment la cause de la crise que nous vivons aujourd'hui. Les autres pays qui sont aussi exportateurs des matières primaires ne souffrent pas une crise comme le Brésil les fait maintenant. Le problème, c'est que au moment où il y a eu l'augmentation de ces prix-là qui représenté pour le Brésil un gain, c'est que les gouvernements ont fait, ça a été en fait de distribuer ces gains et de donner de subventions aux entrepreneurs, des crédits subventionnés. Et ils ont mis en place beaucoup de politiques qui ont augmenté énormément les dépenses publiques et qui ont en même temps créé beaucoup de distorsions dans l'économie. Et c'est ça la cause principale de la crise économique.
Alors, il y a effectivement les politiques publiques. L'agro-industrie, c'est une de vos spécialités, Jean-Yves Carfentan. Est-ce qu'avec cette crise des matières premières, est-ce qu'elle est en grosse difficulté au Brésil ? C'est un pays agricole très important, évidemment.
Alors, paradoxalement, l'agriculture commerciale à vocation exportatrice, ça veut dire la production de soja, la production de maïs, la production de quelques autres grandes cultures, n'est pas touchée par la crise. Elle est en quelque sorte l'un des rares secteurs qui échappe. D'abord parce que, dans un premier temps, elle a été bénéficiaire de la très forte dévaluation de la monnaie nationale par rapport au dollar. Au moment où les cours mondiaux du soja, des céréales dégringolaient entre 2013 et 2015, le réal brésilien par rapport au dollar a connu une dévaluation spectaculaire. Donc ça a permis de maintenir des prix en monnaie nationale à des niveaux relativement élevés. Aujourd'hui, les prix des grains remontent. La monnaie brésilienne s'est un peu réévaluée par rapport au dollar. Pour les agriculteurs qui sont sur ces filières, la situation est relativement confortable encore aujourd'hui. La crise va peser sur l'agriculture à terme parce que l'investissement public est sacrifié. Ça veut dire que les routes, les infrastructures logistiques, les ports ne vont pas être modernisés et ça devient de plus en plus critique.
Alors en plus de ces difficultés, vous l'avez dit tous les deux, vient de se rajouter une crise politique de grande ampleur. La politique et l'économie qui sont d'ailleurs intimement liées au Brésil et depuis des années. C'est l'un des pays où ce qu'on appelle le spoil system dans les pays anglo-saxons, où les postes qui découlent directement des choix politiques, c'est un des pays où c'est le plus important, où les partis politiques, qui sont au pouvoir, pour le dire clairement, nomment le plus de fonctionnaires et de personnes dans les entreprises. C'est une caractéristique majeure au Brésil, ça, Christina Terra.
Oui, il y a plusieurs problèmes par rapport à la politique brésilienne, mais un problème important qui joue avec la crise économique, c'est que le Brésil, c'est un pays pluripartidaire. Il y a beaucoup de partis politiques et c'est très difficile pour le gouvernement de gouverner. Pour gouverner, il faut qu'il forme une coalition dans le Congrès. Comme il y a plusieurs partis, c'est tout éparpillé, c'est difficile de former cette coalition. Et c'est un peu la source de l'augmentation des dépenses publiques parce qu'il faut plaire les députés.
Il faut satisfaire tout le monde.
Et aussi un peu la source de la corruption aussi. Parce que la façon de satisfaire peut être d'une façon légale. On construit des ponts dans les municipalités de députés qu'on veut de notre côté. Ou aussi par une corruption.
Et c'est une corruption qui, disons-le clairement, est très étendue. Parce qu'elle est d'autant plus étendue qu'il y a de nombreux partis politiques. Il y a beaucoup de monde à satisfaire.
C'est-à-dire, les partis politiques ne sont pas tous des organisations définies en fonction d'une idéologie précise, d'une ligne politique bien définie, d'un programme. On forme des coalitions en promettant aux partis qui vont appuyer de renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire d'offrir effectivement des charges dans l'appareil de l'État au sens très large. Au Brésil, il y a 600 000 postes entre l'État central et les États fédérés qui dépendent de nominations par les gouverneurs, par le président ou la présidente, etc. Donc tout ça, c'est autant de capacité d'influence, autant de situations du point de vue des revenus intéressantes, parce que les salaires de la fonction publique ne sont pas les moins élevés, qui sont négociés au moment de la formation des coalitions. Et ça ouvre effectivement une grande porte au népotisme, à la corruption. Et quand les financements officiels ne sont pas suffisants, il faut trouver des financements parallèles.
Alors, le nouveau président brésilien, il s'appelle Michel Temer. Il a succédé à Dilma Rousseff du Parti des Travailleurs après la destitution au moins provisoire de celle-ci. Il a prévenu qu'il ne pourrait pas régler tous les problèmes du pays en quelques semaines. Il dirige un parti centriste. Néanmoins, il va tenter une politique de réduction des dépenses publiques. Écoutez à ce sujet le reportage de notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard.
Le nouveau ministre des Finances, Henrique Meirelles, veut limiter la croissance des dépenses publiques et réduire l'endettement avant d'engager la réforme des retraites. Une méthode orthodoxe pour dessiner une sorte de cercle vertueux.
À partir du moment où l'on restaure la confiance, la consommation va reprendre petit à petit, tout comme l'emploi par conséquent.
La tâche est particulièrement délicate. Les milieux d'affaires restent prudemment optimistes. François Leglet dirige la société Camea, spécialisée dans les fusions-acquisitions à São Paulo.
Malheureusement ou heureusement, Meirelles fait ce qui est le moins pire après la catastrophe que nous a offerte Madame Rousseff.
Dilma Rousseff a été mise à l'écart du pouvoir, mais le procès de destitution lancé contre elle n'est pas encore terminé puisqu'un vote final doit avoir lieu au Sénat dans les prochaines semaines. Tout cela se déroule donc dans un contexte politique survolté. Sur le front de la corruption, le grand déballage continue. De nombreux dirigeants politiques sont passibles de prison. Pas facile, dans ces conditions, de faire approuver des réformes par le Congrès.
La récession est la conséquence de la corruption en grande partie, puisque si on n'est pas copain du roi, on n'a pas en fait la possibilité de concourir sur le marché de façon équitable. Donc les investisseurs ne viennent pas et quand il n'y a plus d'investissement, tout s'écroule. Donc on est à la fin du processus de destruction et puis on amorce le processus de reconstruction.
Le nouveau gouvernement prévoit aussi des privatisations et des concessions pour attirer les investissements du secteur privé. Mais dans un premier temps, les responsables économiques jouent plutôt sur la défensive. Henrique Meirelles, le ministre des Finances, explique que, comme au football, il faut d'abord arrêter d'encaisser des buts. Si la défense est une passoire, dit-il, les joueurs n'ont pas confiance.
La première chose, c'est de rassurer les attaquants pour qu'ils puissent faire leur travail.
La prudence est donc de mise, il faut préparer le terrain et la croissance ne devrait pas être au rendez-vous tout de suite. Christophe Séchois est membre de la Chambre de commerce France-Brésil.
Je pense que ça va être une stratégie très, très conservatrice qui va faire qu'ils vont essayer de remettre un peu le pays sur les rails, ce qui permettra de mieux préparer justement les prochaines élections qui sont en 2018.
Un œil sur l'économie, un autre sur les élections donc. Quant aux crises, le Brésil en a déjà connu beaucoup d'autres dans le passé, explique François Leglet, installé au Brésil depuis plus de 25 ans.
On a vécu bien pire en fait. Maintenant, c'est une crise grave par rapport à ce qu'avait réussi à atteindre le Brésil, qui était d'abord une croissance solide et puis quand même une certaine stabilité.
La question que tout le monde se pose désormais, c'est quand le Brésil va pouvoir retrouver cette stabilité qui permettra la reprise de la croissance.
Alors, le plan de Michel Temer, dans un premier temps, c'est réduire la dépense publique, réduire la dette. Pourtant, Cristina Terra, la dette du Brésil, ça représente 70% du PIB à peu près. On connaît des pays en Europe, par exemple, la France, où c'est beaucoup plus élevé. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué au Brésil ? Pourquoi ça pose plus de problèmes ?
Ça pose plus de problèmes parce que les taux d'intérêt que les gouvernements payent pour la dette est beaucoup plus élevé qu'en France, comme vous aviez dit au départ.
Et donc, Brésil, ça coûte beaucoup plus cher.
Ça coûte beaucoup plus cher. Au Brésil, c'est autour de 14%, tandis qu'ici, c'est proche de 0%.
Alors, le plan de Michel Temer, donc réduction des dépenses et des déficits, est-ce qu'il y a autre chose, Jean-Yves Carfentan, qui accompagne ce plan, ou est-ce que c'est on va tenter de partir dans plus d'austérité, tout simplement?
Je pense qu'il y a un certain nombre de réformes structurelles à faire. La grande difficulté, c'est qu'il y a peu de temps. Au maximum, ce gouvernement a 962 jours, puisqu'il s'achèvera, dans le meilleur des hypothèses, en fin de 2018. Et il faut rapidement engager des réformes structurelles, comme par exemple la réforme de retraite. Le Brésil a un régime de retraite extrêmement généreux. On peut être en retraite très jeune au Brésil.
Oui, ça veut dire quoi, un régime de retraite très généreux? On peut partir à quel âge?
En moyenne, dans le secteur privé, entre 52 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes.
D'accord. Donc
et une population dont l'espérance de vie, comme partout ailleurs, augmente considérablement.
Oui, il y a plus de jeunes, par exemple, quand même au Brésil que dans les pays développés, les vieux pays européens ou américains.
Oui, mais c'est aussi une population qui vieillit rapidement. Le rapport entre la population jeune qui va entrer sur le marché du travail et la population âgée qu'il faut prendre en charge dans le cadre du régime de retraite devient de plus en plus défavorable. Donc c'est des réformes comme ça qu'il faut engager, au moins engager, très rapidement, avec une légitimité politique relative, avec une base d'appui au Congrès qui est relativement fragile, avec la pression d'un appareil judiciaire qui poursuit son travail d'investigation sur le fameux scandale de Petrobras, avec la riposte des partis qui étaient hier au pouvoir, les partis de gauche, le Parti des travailleurs, qui va certainement se manifester. Demain après-midi, il y a des manifestations dans plusieurs grandes villes brésiliennes. C'est un premier test.
Christina Terra, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre à part serrer les cordons de la bourse?
Bon, juste une information supplémentaire pour les pensions. Le Brésil, actuellement, dépense pour les pensions un pourcentage du PIB, la même chose que le Japon, qui est un pays beaucoup plus vieux que le Brésil. Donc ça donne un peu la mesure du problème que nous avons en main maintenant. Et Michel Temer, il a vraiment devant lui une période très difficile. Il a mis en place une équipe économique très forte. Ce qu'il a choisi pour les ministères des Finances, pour la Banque centrale, c'est des économistes qui ont une expérience publique et qui sont très, très réussis dans les marchés privés et qui connaissent bien comment gérer l'économie. Donc, dans ce point de vue-là, ils sauront quelles sont les bonnes politiques à mettre en place. Mais pour les mettre en place, il faut les côtés politiques parce qu'il faut l'approbation du Congrès. Et c'est là que ça coince.
Ouais, le coût politique pour Michel Temer va être élevé. Quid du coût social? Passer les retraites de 55 ans en moyenne, comme vous le disiez, Jean-Yves Carfentan, à, je sais pas, 60, 62, 65, les gens vont être d'accord avec ça?
Alors, le coût social, il ne tient pas seulement à la réforme des retraites. Il y a déjà un coût social énorme depuis 2 ou 3 ans, dans le fait que l'inflation n'est pas bien contrôlée, dans le fait que les dépenses publiques sont effectivement soumises à des ajustements qui touchent d'abord... Il y a un chômage galopant. Le coût social est déjà là. La réforme des retraites va probablement se faire avec des étapes transitoires. Il y aura effectivement des répercussions. Il faut la faire de la manière la plus juste possible, c'est-à-dire en touchant d'abord les catégories de retraités qui sont les plus avantagées. Tous les retraités brésiliens ne sont pas des gens qui se contentent d'un salaire minimum. Il y a des retraites absolument généreuses pour les catégories les plus élevées de la fonction publique, par exemple. La réforme doit commencer par là.
Rapidement, Christina Terra. Le coût social de la crise actuellement au Brésil est vraiment très élevé.
C'est très élevé et en fait, la crise maintenant met en péril tous les acquis sociaux que nous avons eus pendant les dernières années. Le Brésil est un pays avec beaucoup, beaucoup d'inégalités et pour la première fois dans l'histoire, les inégalités commençaient à diminuer et maintenant ça va remonter de nouveau.
Fin de cette première partie d'Écho d'ici et d'Écho d'ailleurs. On va se retrouver dans à peine plus de 3 minutes, juste après le tour du monde en 180 secondes. A tout de suite.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Appelez-nous, exprimez-vous. Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Guillaume Nodin.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans la deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous sommes toujours avec Christina Terra, professeur d'économie à l'ESSEC et chercheur associé au CEPI, et Jean-Yves Carfontan, professeur d'économie établi au Brésil. Ils nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler des difficultés de l'économie brésilienne et de ses possibilités de rebond, parce qu'il doit quand même bien falloir qu'il y en ait. L'une des caractéristiques de l'économie brésilienne, c'est qu'elle est traditionnellement assez dirigée et protégée. Comment l'État protège-t-il les entreprises et le marché brésilien ? Est-ce que cette tendance au dirigisme et au protectionnisme change ces dernières années, Christina Terra ? Vous disiez que finalement, ça a peut-être empiré.
Oui, effectivement, ça a empiré. On avait eu une vague d'ouverture pendant les années 90, très forte en fait. Et depuis 2007-2008, peu à peu, cette vague commence à être renversée. Surtout dans le gouvernement de Dilma Rousseff, ils ont augmenté les tarifs d'importation de certains produits. Et en plus, ils ont mis en place des politiques pour inciter les contenus locaux dans la production. Par exemple, une entreprise pour avoir un crédit subventionné donné par les banques de la Banque de développement brésilien, il devrait avoir un minimum de contenu local, c'est-à-dire parmi les inputs, les biens intermédiaires qu'il achète.
Qui est une bonne partie de Made in Brazil, si je peux dire.
Made in Brazil, exactement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean-Yves Carfontan ? C'est de plus en plus compliqué pour une entreprise qui veut s'implanter au Brésil ?
Pour qu'une entreprise s'implante au Brésil de l'extérieur, ça n'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'hier. Mais effectivement, il y a eu depuis une dizaine d'années, je dirais, une politique de renforcement du protectionnisme traditionnel au Brésil, notamment pour les industries manufacturières, la volonté de développer avec des règles de contenu local de plus en plus restrictives, des filières intégrées, de transformer par exemple Petrobras en une sorte de hub qui dynamise toutes sortes d'industries en amont par ses investissements. Ce faisant, l'industrie brésilienne a tourné le dos à la logique de développement de l'industrie mondiale, qui est de plus en plus une logique d'intégration dans des grandes filières internationalisées. Et la conséquence de cela, c'est des coûts, des surcoûts très importants, des baisses de la productivité. L'industrie brésilienne a perdu beaucoup en compétitivité depuis une dizaine d'années. Le résultat, c'est effectivement un pays qui s'est, en quelque sorte, recentré sur des exportations de commodités, alors qu'il avait une base d'exportation très diversifiée à la fin des années 90.
Et pourquoi ce choix de reprotéger l'industrie brésilienne, l'économie brésilienne, a-t-il été fait ? Est-ce que auparavant l'ouverture sur le monde avait été peut-être trop dure pour les entreprises brésiliennes ? Elles avaient eu du mal à s'adapter. Pourquoi est-ce qu'on est revenu sur cette politique traditionnelle ?
C'est une très bonne question, parce que, bien sûr, les industriels à l'époque, dans les années 90, ils n'étaient pas contents tous avec l'ouverture, parce qu'ils avaient construit l'industrie au Brésil dans une ambiance très, très protégée. Donc, les résultats étaient une industrie plus large, bien sûr, mais très, très inefficace, peu compétitive.
Peu d'innovation.
Peu d'innovation et peu de une productivité très basse. Donc, avec l'ouverture, ils ont senti les coûts, ils ont bougé, ils ont commencé à investir davantage. Et ce qui se passe, c'est que les économistes qui étaient en train de mener l'économie récemment, pendant les dernières années, dix ans à peu près, ils avaient l'idée qu'en fait, c'est l'industrie qui apporte la croissance au pays. Et que pour que l'industrie se développe, il faut protéger l'économie. C'est une idée des années 50 qui n'a pas marché à l'époque et qui ne va pas marcher non plus maintenant.
Qui a été développée sous la dictature au Brésil.
Sous la dictature au Brésil. C'était des politiques qui ont augmenté les inégalités dans les pays. Parce que quand on donne des subventions à l'industrie, c'est tout le monde qui paye. En fait, pour donner de l'argent à un secteur spécifique, dans ces cas-là, l'industrie.
Jean-Yves Carfontan, vous êtes installé ou vous êtes fréquenté le Brésil assidûment depuis le début des années 90. Les entreprises, à l'époque, les entreprises brésiliennes qui étaient sorties un peu de ce monde un peu protégé, elles s'adaptaient pourtant.
Elles se sont adaptées essentiellement en faisant des investissements de productivité dans tous les secteurs où on a libéralisé modérément, ouvert le marché, accentué la concurrence. Les gains de productivité ont été spectaculaires et les consommateurs finaux en ont largement profité. Ce qui s'est passé, vous posiez la question pourquoi ? Je crois que quand il y a une protection, il y a des protégés. Et les protégés, les bénéficiaires de la protection, je dirais pour schématiser que c'est pour l'essentiel la clientèle dans laquelle, qui forme la base sociale des partis de gauche qui ont été au pouvoir pendant 13 ans. Les syndicats de l'industrie automobile, par exemple. La fonction publique, au sens très large. Quand il y a une protection, il y a des protégés. Et le gouvernement a renforcé la protection pour servir sa clientèle.
Comme le disait un ancien président français, dans chaque niche fiscale, il y a un chien de garde.
Oui.
Je reviens à ma question de tout à l'heure, Christine Atterra. Aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours aussi difficile pour une entreprise étrangère de s'installer au Brésil et d'y faire des affaires ? Est-ce que c'est vraiment compliqué ?
Les problèmes au Brésil, c'est que la régulation est très, très compliquée. Il y a des données qui essayent de comparer les pays par rapport à la facilité de faire de business dans différents pays. Et il y a par exemple ces données qui calculent le nombre d'heures de travail qu'on a besoin pour payer ses impôts. Au Brésil, on a besoin, une entreprise en moyenne a besoin de 2400 heures de travail par an pour payer ses impôts.
Ça veut dire que le taux d'imposition est très élevé pour...
Ça veut dire que c'est... Non, pas c'est... forcément. C'est simplement très compliqué.
Ah, c'est la préparation.
La préparation. D'accord. Donc, la quantité de comptables qu'on a besoin.
Donc, c'est compliqué.
On a besoin de 2400 heures de comptables pour les faire. Et les pays en deuxième position, après le Brésil, a besoin de 1200 heures. Et dans les pays comme développés, ça va autour de 200 heures. Donc, c'est vraiment super compliqué. Et ça devient un coût pour l'entreprise. Parce qu'au lieu d'investir dans la production, elle paye des employés pour faire de la bureaucratie. C'est un gaspillage. Et en plus, un autre problème, c'est le problème des infrastructures aussi. Il n'y a pas un réseau ferroviaire au Brésil. Les métros, les réseaux des autoroutes, c'est très mauvais aussi. Donc, les producteurs, ils peuvent être très efficaces dans sa production, dans la fabrique, mais pour prendre les produits et amener dans un port pour exporter, ça devient très, très cher.
Alors, on va en reparler. Je fais appel, Jean-Yves Carfrantin, à votre expérience, vous, de créateur d'entreprise, puisque vous avez créé un cabinet de consultants là-bas au Brésil. C'est compliqué ?
Un exemple très précis de ce que vient de dire Christine Atterra. Il y a 15 jours, la mairie de la ville de Campinas, où notre société a son siège social, nous envoie un papier nous enjoignant de payer un impôt sur les services, auquel nous ne sommes pas assujettis puisque nous sommes exportateurs de services. Il a fallu faire intervenir un avocat. Il a fallu mobiliser un de nos collaborateurs pendant 3 jours à plein temps pour faire comprendre à l'employé de la mairie en question que nous n'étions pas assujettis à cet impôt. Ces 3 jours parmi beaucoup d'autres jours de travail, mais on pourrait multiplier les exemples. Le droit fiscal est d'une complexité telle qu'on n'est jamais certain d'être en règle par rapport à la législation.
Il y a une incertitude fiscale. Alors, vous avez commencé à en parler. Les conséquences de ces complications administratives, fiscales, et puis protectionnistes, tout simplement, c'est quoi ? On en a parlé un petit peu. Le manque d'innovation, le manque d'investissement, les infrastructures sont dans un état... Dans quel état au Brésil, Christine Atterra ?
C'est vrai. Le taux d'investissement est très, très faible parce que si l'entreprise, elle doit dépenser beaucoup d'argent pour se mettre en norme du point de vue fiscal, par exemple. C'est des ressources qui auraient pu être mises dans l'investissement au lieu d'être mises simplement pour faire de la bureaucratie. Et en plus, s'il y a aussi tous ces niches fiscaux, et par exemple les crédits subventionnés qui sont donnés si l'entreprise fait ceci, si elle fait cela, ça apporte plus à l'entreprise d'investir dans les lobbies pour avoir son propre niche, que dans la production, dans la productivité. Donc, du coup, ces problèmes de régulation, de réglementation qui est très compliqué, ça crée de problèmes supplémentaires, beaucoup de distorsions, vraiment, dans l'économie.
Jean-Yves Carfondant, pareil, il y a des pans entiers de l'activité traditionnelle des entreprises qui sont quasiment à l'abandon ou...
Non, je crois que dans le secteur privé, les entreprises restent très dynamiques. Et elles ne peuvent survivre que parce qu'elles sont très dynamiques. Mais effectivement, si on prend l'agriculture, par exemple, vous avez des agriculteurs extrêmement performants sur leurs exploitations. Les choses commencent à se compliquer quand le produit agricole sort de la ferme, quand il faut l'acheminer vers le marché de consommation, vers les industries transformatrices ou vers les ports. Nous avons des coûts de transport extrêmement élevés, des délais d'attente, des charges supplémentaires parce que les contrats ne sont pas respectés en termes de délais de chargement des bateaux, etc. etc. Donc, on dit souvent au Brésil, nous sommes compétitifs, nous sommes performants jusqu'à la porte de la ferme, et passer la porte de la ferme, ça devient dramatique.
Alors, justement, l'an dernier, la Chine a annoncé vouloir investir 50 milliards de dollars dans le pays. Le but, c'est de construire un couloir ferroviaire vers le Pacifique, le Pérou, à travers le Pérou, je crois, pour pouvoir acheminer plus facilement les matières premières, le fer, les produits agricoles. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que on sent ça? Ou est-ce que l'effondrement de la demande chinoise, enfin, le ralentissement chinois, est-ce que tout ça a mis un peu tout ça, ces projets sous l'été noir, Christine Atera?
Bon, on va voir comment va se passer, parce que c'est vrai que les ralentissements chinois, ça peut mettre en péril ce genre d'investissement dans le Brésil. Mais même si l'économie chinoise a ralenti, elle continue dans une croissance très importante.
Ouais, on est quand même toujours à 7,5% de croissance.
Exactement. Le Brésil, s'il était à zéro, il serait déjà content.
Non, je crois que les investissements chinois au Brésil continuent. Je citerai deux exemples. La société chinoise CMOC, qui est un des grands opérateurs de transport ferroviaire au Brésil, vient d'annoncer un investissement, et de transport, de logistique en général, vient d'annoncer un investissement très important pour moderniser des structures portuaires sur le fleuve Amazon et son affluent Tapajós au nord. L'objectif, c'est de faciliter le commerce agricole. Le mois dernier, une autre société chinoise, qui s'appelle CCC, qui est une grande entreprise de négoce agricole, vient de racheter le plus grand distributeur d'intrants agricoles dans l'état du Mato Grosso et va probablement investir encore davantage puisqu'ils viennent de créer une filiale à São Paulo. Donc je crois que ça continue en tout cas dans le secteur agricole et agro-industriel.
Donc ça continue, les investissements étrangers continuent au Brésil. Le Brésil s'ouvre au monde, hein, de plus en plus quand même sur l'extérieur, même s'il y a des complications, des difficultés qui sont faites aux entreprises. Il y a eu la Coupe du Monde de football en 2014. L'événement avait été précédé par d'importantes manifestations et de nombreux troubles sociaux. À l'époque, il y avait notamment des mécontentements sur le coût des transports dans le pays, sous les présidences Lula et Rousseff. L'objectif a été de sortir de la population de la pauvreté avec des programmes sociaux et des bourses pour les familles, avec la facilitation du crédit. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a moins de pauvres aujourd'hui au Brésil et une classe moyenne plus importante?
Certainement, il y a moins de pauvres et une classe moyenne plus importante. La pauvreté a commencé à baisser à partir de 1995, quand l'inflation, qui était galopante avant, a été mise en arrêt. Et la croissance donc a fait que la pauvreté diminue. Mais les politiques sociales mises en place par Lula, qui avait commencé avec le président Cardoso, a aussi beaucoup aidé à la diminution de la pauvreté. La Bolsa Família, qui est le programme de transfert pour les familles plus pauvres, elle a eu un impact très important. Et il faut noter que ces programmes-là ne coûtent pas beaucoup. Ils coûtent très, très peu. En fait, les problèmes du budget du gouvernement, ce n'est pas à cause des programmes sociaux. Les programmes sociaux ne coûtent pas beaucoup. Les problèmes du budget aujourd'hui, c'est à cause de politiques industrielles mises en place par la fin du gouvernement Lula et Dilma Rousseff.
Donc il y a une classe moyenne plus importante qu'il y a quelques années, même beaucoup plus importante. Est-ce que c'est acquis? Est-ce qu'il y a un acquis, Jean-Yves Carfrantant? Est-ce que c'est solide?
Alors, il y a un acquis qui est fragile parce que les gens de cette nouvelle classe moyenne, les parents, par exemple, pouvaient espérer voir leurs enfants rentrer à l'université, ce qui au Brésil est un seuil très important du point de vue de l'ascension sociale. Et aujourd'hui, on voit que ces rêves commencent à s'écrouler. On va mettre les enfants plus rapidement au travail parce qu'on ne pourra pas financer l'enseignement supérieur. Il y a des phénomènes de recul qui sont observés à de nombreux niveaux. Néanmoins, il y a une évolution de la société avec une classe moyenne qui reste importante. Et c'est cette évolution de la société qui fait aujourd'hui que la population n'est plus disposée à accepter, à tolérer autant de choses qu'elle pouvait en tolérer il y a 20 ou 30 ans, du point de vue, par exemple, du comportement de la classe politique.
Alors le président Lula, la présidente Dilma Rousseff comptaient beaucoup, justement, sur cette classe moyenne et sur la consommation intérieure pour prendre le relais de la croissance externe. Est-ce que cette consommation intérieure, dans les conditions actuelles, avec une récession à 4%, est-ce qu'elle est toujours au rendez-vous, Christine Interra?
Avec cette récession, bien sûr que non. Les chômages augmentent, les familles sont endettées, parce qu'il y a eu une grande augmentation du crédit les dernières années. Donc, la consommation, elle diminue. Je dois dire qu'en fait, un des acquis de ces politiques sociales qui restent, c'est l'acquis par rapport à l'éducation. Il y a eu quand même une augmentation du niveau d'éducation de la population, et ça, on ne va pas revenir en arrière. Mais c'est vrai que pour les autres, s'il y a avec cette forte récession, on peut revenir en arrière.
Alors, le Brésil, on en parle évidemment aujourd'hui ensemble, mais on en parlera encore plus au mois d'août, quand Rio accueillera les Jeux Olympiques d'été. Je vous propose d'écouter à ce sujet un autre reportage de notre correspondant Martin Bernard. Il s'est rendu la semaine dernière à Rio, sur les sites olympiques. On va d'abord constater qu'à un peu moins de 2 mois des Jeux, tout n'est pas tout à fait prêt, ce qui n'est pas normal, mais que sur place, même les Brésiliens les plus concernés doutent un petit peu de l'effet Jeux Olympiques. Écoutez le reportage de Martin Bernard.
À Rio, à moins de 2 mois du coup d'envoi des JO, on en est aux finitions. Ici, les derniers coups de marteau avant la mise en service du tramway, certes avec beaucoup de retard. Le Brésil est en récession, l'état de Rio traverse une grave crise financière. Et pourtant, il devait profiter des retombées économiques des Jeux Olympiques. Patrick Adiba est le vice-président d'Atos, une entreprise de technologie de l'information qui est partenaire du Comité Olympique International.
Les Jeux ont toujours un impact économique très important puisqu'effectivement les Jeux sont attribués 7 ans avant aux pays hôtes et ils impliquent beaucoup de construction. C'est comme la construction d'une ville entre les stades, les infrastructures, les routes. Et donc il y a un facteur d'accélération sur la création des infrastructures qui est un facteur d'accélération économique. Donc Rio et le Brésil, de la même manière que les Jeux précédents, aura un bénéfice effectivement de cette accélération et de ces créations d'infrastructures qui devraient se noter dans son économie.
Alors, que s'est-il passé ? Les grandes entreprises de BTP sont au cœur d'un gros scandale de corruption. Tout le secteur a été déstabilisé, donc peu d'investissement. Les consommateurs, eux, sont endettés et n'ont pas le moral. C'est dur pour le commerce. Ana Beatrice Machado a ouvert une crêperie dans le vieux centre de Rio, non loin de la nouvelle ligne de tramway inaugurée pour les Jeux. Pour elle, les Jeux, ça peut être un coup de pouce bienvenu.
Je crois que ça va avoir un impact positif, oui. Ça va aller beaucoup de touristes. Et pour moi, c'est important d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires.
L'économie du Brésil ne va pas très bien depuis quelques temps. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques vont aider l'économie brésilienne?
Oui, oui. Ça va aider cette année-là, un peu.
Et après?
Et après, c'est ça que ça me donne un peu peur. Parce qu'après, on ne sait pas. Mais moi, je suis toujours positif.
La vie n'est pas facile pour les petits entrepreneurs. Il y a 2 ans, la Coupe du Monde avait été une grosse déception pour cette jeune patronne. Et pour l'économie en général, l'effet des JO sur la croissance du Brésil sera finalement négligeable, selon les spécialistes locaux.
Alors, Jean-Yves Carfantan, les JO peuvent-ils aider à la relance de la croissance? Ou est-ce que l'essentiel de l'effet économique est déjà passé au moment des grands investissements et de la construction des infrastructures?
Alors, je suis assez d'accord avec cette dame qui est interrogée, qui dirige un site de production de crêpes. Et il faut remarquer que l'État de Rio, au moment où il est en train d'investir avec l'aide du gouvernement fédéral dans les infrastructures des Jeux Olympiques, est plongé dans une crise lui aussi historique. Toute l'économie de l'État de Rio dépend largement du pétrole. Et le pétrole, comme vous le savez, n'est plus à 100 dollars le baril, les prix rêvés d'il y a quelques années.
C'est remonté un tout petit peu, on est aux alentours de 50 dollars, mais c'est quand même très bas.
L'économie pétrolière de l'État de Rio est directement touchée. Ça veut dire que le budget de l'État de Rio est dans une situation catastrophique. Ça veut dire que l'État de Rio ne parvient plus à payer ses retraités depuis plusieurs mois. Ça veut dire que dans quelques mois, si on ne fait rien, il ne pourra plus payer ses fonctionnaires. Donc c'est aussi une des composantes du tableau économique et social aujourd'hui dans l'État qui va recevoir les Jeux Olympiques. Sans parler d'un autre problème qui a fait beaucoup d'écho dans la presse internationale, l'État de Rio a été parmi les plus touchés par le virus Zika et les problèmes de santé publique que ça a posé.
Alors Christine Terra, est-ce qu'on peut imaginer que les JO soient une nouvelle occasion, dans ces conditions, d'exprimer le mécontentement des Brésiliens comme en 2014?
Bon, on va voir, mais il y a un côté, les Brésiliens sont très fiers du Brésil, normalement. peut-être même pas maintenant avec cette crise, mais normalement, on a cette fierté. Donc, je ne sais pas si pendant les Jeux olympiques, on va faire des manifestations contre le gouvernement. Là, je ne crois pas. Parce que...
Il y a des pays où ça existe.
Oui.
Alors, oui, continuez, pardon.
Mais la fin des Jeux olympiques, ça va être un coup dur pour Rio. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'emplois qui sont là à cause des Jeux olympiques. Mais après, en octobre, tout sera fini et beaucoup plus de gens seront au chômage. Et au Brésil, plus de chômage, ça veut dire plus de criminalité, plus une augmentation de la pauvreté, parce qu'il n'y a pas cette assurance sociale qu'on a ici en France.
Au final, si on se place dans une perspective plus large, le Brésil paye-t-il tout simplement un retournement de l'économie mondiale des émergents vers les pays développés, un mouvement de capitaux vers les États-Unis depuis l'annonce par la Fed de la hausse de ses taux d'intérêt, parce qu'on rapatrie un petit peu l'argent des émergents vers les pays traditionnels. La difficulté à laquelle est confronté le Brésil s'inscrit dans ce mouvement général, Jean-Yves Carfontan?
Je crois que le Brésil paye deux choses. Il paye d'une part le prix de ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. Le pétrole élevé, les cours des matières premières exportées à des niveaux stratosphériques comme on les a eus dans les années 2007-2012, ça rend ivre. Donc il y a un aspect de ce côté-là qui est très important. Le deuxième aspect, c'est que sur ce boom des matières premières s'est greffé une aventure que j'appellerais populiste, qui n'est pas seulement propre d'ailleurs au Brésil. Regardez l'Argentine, regardez le Venezuela, beaucoup plus dramatique. Et c'est le populisme de gauche dont on est en train de solder les comptes, avec les déséquilibres des finances publiques, avec l'absence portée à la compétitivité de l'économie, un pays qui a besoin aujourd'hui d'un choc d'offres, qui a besoin de s'ouvrir au monde, tout autant que de régler ses déséquilibres de finances au niveau de l'État. Donc c'est ça qu'on est en train de payer. Ça va prendre du temps, mais je crois qu'il y a aussi un aspect positif. Cette crise est une crise de maturité. La société brésilienne avance. Elle prend conscience que ce n'est pas avec des sauveteurs, avec des messies, comme il y a une vieille culture politique messianique au Brésil, qu'on va résoudre les problèmes. C'est avec des hommes politiques compétents, plus modestes, qui respectent les lois de l'économie, les institutions, que le pays peut avancer.
Oui, alors depuis trois quarts d'heure maintenant, on est en train d'expliquer que l'économie brésilienne va très mal. Cristina Terra, on va être terminé sur une note négative. Quelles sont les raisons d'espérer pour le Brésil aujourd'hui? Quels sont les atouts du Brésil aujourd'hui pour pouvoir se relancer, même si on sait qu'il y aura encore récession pour cette année en 2016?
Bon, le peuple brésilien est un peuple très optimiste, normalement. On a bien entendu l'interviewée récemment, qu'elle disait qu'elle est optimiste, malgré la récession et tout ça, elle est optimiste que les choses vont s'améliorer. Quelle raison on aurait à avoir maintenant pour cet optimisme? Peut-être je dois dire que moi-même, en ce moment, je ne suis pas aussi optimiste que ça. Parce que j'ai vécu la crise des années 80 au Brésil, beaucoup de choses il a eu beaucoup de constructions institutionnelles pendant les années 90 et au début des années 2000. Et on avait l'impression qu'on avait appris avec les erreurs du passé et que, on était en train de mettre des politiques plus saines et plus raisonnables. Et dans quelques années, tout a écoulé. Tout a basculé complètement. Il faut comprendre que le Brésil, comme les économies émergentes, c'est un pays qu'il y a beaucoup de flexibilité. On peut très facilement changer beaucoup les politiques économiques. Ça peut être bien quand il y a quelqu'un qui met de bonnes politiques économiques en place. Donc, une raison pour espérer, c'est que si Michel Temer, il reste, il arrive à mettre en place les politiques économiques qu'il veut mettre, ça peut être une bonne chose. Et si, en 2018, le Brésil arrive à élire un nouveau président qui a aussi les bonnes politiques en tête, on peut espérer. Mais par contre, si soit Temer ne reste pas, ou soit en 2018, l'élection donne comme résultat un président populiste, là, il n'aura plus de raison pour espérer.
Jean-Yves Carfontan, d'accord avec cette analyse, on en revient en fait à ce qu'on disait au début de l'émission, l'économie au Brésil dépend beaucoup de la politique.
Je crois qu'effectivement, les 2 ou 3 années qui viennent sont décisives du point de vue de l'avenir du pays. Est-ce que ça va devenir un pays émergent confirmé ? Est-ce que ça va devenir un pays qui s'appauvrit ? Je suis un peu aux premières loges, puisque j'habite à San Paolo, dans une rue parallèle de l'avenue Paoliste, qui est en quelque sorte la place de la République à San Paolo, et où ont lieu toutes les grandes manifestations, les grandes protestations. Et j'ai été très frappé depuis 2 ou 3 ans de voir à quel point la température, l'attitude de la société brésilienne a beaucoup changé dans le sens d'une plus grande maturité, d'une plus grande prise de conscience des problèmes de fond. Et je crois que c'est ça le levier qui va obliger la classe politique à évoluer et permettre enfin à ce pays de sortir de l'ornière.
Un pays qui donc est en train de passer à l'âge adulte, si on peut dire ça comme ça.
Il y a cette dimension-là, incontestablement. Démographiquement, il vieillit aussi. Peut-être que ça aide.
Christina Terra, d'accord
avec
ça ?
Oui, je suis d'accord.
Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qui était réalisée aujourd'hui par Victor Ouvrard. La semaine prochaine, vous retrouverez, conformément à vos habitudes, Jean-Pierre Boris qui sera de retour. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Géopolitique.